Donc j'arrête là. Hein.
Ouais, sans arrêt. Tout ça, t'es enregistré, mais ça sert à rien de enregistrer deux fois. T'as eu une étudiante en art à faire. Là, t'as eu son carton. Hein.
Bonsoir à tous, bienvenue sur BAF Radio ce soir, émission spéciale CPE. On essaiera aussi de parler un petit peu de l'aventure de BAF et de l'histoire du juge Scalia de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. On va pas tarder. Pour ceux qui veulent intervenir, c'est assez simple. Vous allez sur le site www.bafweb.com et vous prenez l'interface Skype. Vous pouvez nous envoyer des emails et pour les accros du téléphone, vous pouvez nous envoyer votre numéro de téléphone au 0041 43 526 80 99. Et là, c'est simple, on vous rappelle, vous pouvez intervenir comme ça de façon assez directe, l'idéal restant quand même toujours la voie internet. On commence tout de suite avec notre ami Roland Richard. Roland, bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Alors, on a entendu déjà pendant tout le jingle, on a entendu des coups de sifflet, du bruit. Où est-ce que tu es?
Alors écoutez, là je me situe en fait place de la République, donc avec Florence. Où en fait nous assistons donc à la manœuvre des forces de l'ordre pour encercler en fait les personnes qui sont restées au centre de la place. Et donc en fait on a eu beaucoup de chance, encore une fois là on a eu beaucoup de chance, c'est précis contrairement à jeudi dernier, parce qu'on a été successivement dans des boulevards qui ont tous été annexés par les forces de police, encerclés avec interpellation, etc. Donc là, en fait on s'en est sorti, mais avec de la chance, un peu involontairement finalement.
Bon, alors
donc, là,
tu...
pour vous décrire la... Oui.
Oui, alors tu sais que la dernière fois, on t'a couru après à travers tous les commissariats de Paris. Qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière?
Alors écoutez, bah, jeudi dernier, c'est très simple. En fait, je me situais, donc j'étais aux Invalides, donc pour, toujours pour ce même reportage. Et donc, c'était à l'angle de la rue Faber et du quai d'Orsay. Et puis en fait, on s'est fait littéralement encercler par un carré de policiers, avec derrière pour seul échappatoire la berge et donc la Seine après. Et donc finalement, on a eu un certain nombre de personnes qui étaient interpellées, dont moi, qui ont été donc embarquées par les forces de police, et quand même avec un fort taux de personnes relâchées, sans même de vérification réelle en fait de leur implication ou non dans les événements. Moi personnellement, on m'a juste demandé une déclaration, puis on m'a libéré. Point. Après 4h30 quand même de mise en garde à vue.
D'accord. Et après avoir quand même gazé le fourgon quand même, non?
Oui, alors voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a été mis dans un bus, et puis donc dans le bus, il y avait des personnes qui ont réussi en fait à casser la porte latérale du bus, et qui en fait, il y a 5 personnes qui ont réussi à sortir, dont une seulement qui a réussi vraiment à s'enfuir, et les 4 autres qui ont été remises en bus. Du coup, on a été menottés et puis emmenés après au commissariat de police du 18e. Voilà.
Enfin, tu n'es vraiment qu'un gros délinquant, évidemment, jeune voyou et casseur. Alors bon, heureusement, ça s'est bien terminé. Essaie de ne pas te faire attraper de nouveau ce soir. Alors, maintenant...
Non. Là, ça risque pas, en fait. Là, on est vraiment dans un endroit calme, là. Enfin, calme. Entre guillemets, je veux dire un endroit où on risque rien de nous.
D'accord. Alors, disons, sans vouloir mettre ton futur en jeu, il va falloir que tu nous décrives un petit peu ce qui se passe autour de toi, que tu t'approches éventuellement de la scène, et puis que tu nous racontes un peu déjà comment ça s'est passé aujourd'hui à Paris, est-ce qu'il y a eu vraiment autant de monde qu'on a pu le lire dans les médias intermédiaires, et puis qu'est-ce qui est prévu pour ce soir?
Alors écoutez, là je ne peux pas être plus près, hein, que je me suis actuellement. On a réussi à se mettre en surplomb en fait sur les bords d'une banque ou je sais pas quoi, enfin un bâtiment assez grand. Et donc en fait on a une vue de surplomb sur ce qui se passe à la place de la République. On a une vue très privilégiée de ce qui est en train de se passer. Privilégiée, enfin c'est un terme qui est peut-être un peu ennuyeux à employer dans un tel cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Écoutez, la manifestation cet après-midi, je pense, a été une réussite pour les anti-CPE aujourd'hui. Elle s'est passée dans un calme, j'ai presque envie de dire olympien. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de problème. Et en fait, ce qui s'est passé, on est arrivé par la place de la République et on a vu directement les casseurs avant même que la manifestation soit terminée. Les casseurs étaient déjà là et en fait n'attendaient qu'une chose, c'était de s'affronter clairement avec les forces de l'ordre. Alors là, juste un instant, hein, puisque nous sommes en direct, je vous le dis honnêtement, donc les forces de l'ordre sont en train donc d'encercler les quelques manifestants et un groupe de casseurs qui sont donc restés au milieu de la place de la République. Alors, bon, est-ce que c'est comme aux Invalides où les castors ont eu le temps de s'échapper? Est-ce que, alors, Florent me dit qu'il y a quand même un certain nombre de castors qui devaient être encore là, étant donné quand même qu'ils ont pris position dans les différents boulevards autour et qu'ils ont le plus possible, laissé d'encercler les gens. Et là je vois les deux rangs de police qui s'avancent les uns vers les autres. Il va y avoir interpellation, puis il va y avoir surtout des conflits. Il y a des jeunes donc qui courent dans tous les sens pour essayer d'éviter les policiers, mais apparemment là c'est chose compromise pour les gens qui sont restés dedans. Et donc non, bah, qu'est-ce qui est prévu pour ce soir? Bah, pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas trop. Hein, les forces de police sont très présentes, elles étaient très très nombreuses aujourd'hui. Plus de 4000 policiers, gendarmes mobilisés rien que pour la manifestation parisienne. Et je vous assure, c'est quand même très impressionnant ce que l'on voit. Hein. D'ailleurs, on a un rang en fait là qui est en train de, au fond de la place de la République, qui vient donc de la ville de la République sur la place, qui est en train donc d'encercler littéralement les jeunes qui sont restés donc au milieu de cette place. Voilà. Alors après, est-ce que c'était une réussite donc la manifestation? Je vous le dis honnêtement, je pense que oui. La CGT, nous sommes arrivés, il n'y avait plus que les cortèges de la CGT, le cortège était déjà passé avant. Et donc, il y a quand même beaucoup de, il y a eu, c'était une vraie réussite et c'est véritablement dommage. On s'est vraiment bien rendu compte, je pense, aujourd'hui avec Florent, qu'il y avait une différence entre les gens qui manifestaient contre le CPE et puis les gens qui vraiment étaient là honnêtement pour nuire uniquement. On a un camion de pompiers qui est en train de se faufiler entre les manifestants.
Il y a ça, les gens.
Et donc là, nous sommes en face de la bouche d'une des sorties du métro public et les policiers, en fait, empêchent les gens de sortir de la ligne de métro. Alors, est-ce que c'est pour des raisons de sécurité? On ne sait pas. Je veux dire, c'est très compliqué de savoir. Et puis, donc là, le camion de pompier dont je vous parle, a traversé le rang de police. Oui, excusez-moi, parce que j'ai fait un monologue.
Alors, Roland, oui, est-ce que vous pouvez identifier un peu à quoi ou à qui appartiennent ces jeunes? Est-ce que c'est un peu par rapport à ce qu'on a vu le week-end dernier à la télévision? Est-ce que ce sont des anarchistes ou bien seulement des casseurs en capuche et ce genre de trucs?
Je vous avoue que j'ai quand même l'impression que c'est pas le même public.
C'est-à-dire, c'est qui?
C'est-à-dire que si vous voulez, on avait l'impression que on a plus l'impression que c'est une jeunesse politisée qui est en train d'être encerclée. Alors qu'aux Invalides, on avait moins cette impression-là. On avait plus l'impression que c'est des groupes de jeunes qui venaient juste pour s'affronter. Là, on a vraiment l'impression que c'est plus des jeunes politisés qui veulent en découdre finalement avec les forces de l'ordre.
D'accord. Et est-ce que donc ils vont très clairement en découdre? Je veux dire, l'idée c'est qu'ils sont quand même là pour se défendre ou pour se battre. Ce ne sont pas les pacifistes qu'on nous a vendus.
Non. Mais il faut vraiment faire une distinction. C'est un mouvement très complexe parce que justement on a toute une, on l'a vu si vous voulez, la manifestation s'est très bien déroulée. Je vous l'assure. Pour vraiment avoir été là quand même durant la grosseur de la fin, on a vu que ça s'était quand même bien passé. Et puis, et beaucoup de cortèges, mais on a eu les deux derniers cortèges, celui de Force Ouvrière et celui de la CNC, qui ont été appelés à dévier leur trajet initial, c'est-à-dire ne pas terminer sur la place de la République et à terminer ailleurs. Donc, parce que justement, pour des raisons de sécurité, alors est-ce que c'était le service d'ordre de ces cortèges ou est-ce que c'était les policiers qui avaient demandé ça, on ne sait pas très bien, mais finalement, ce qu'on sait, c'est que les jeunes qui sont présents là maintenant sont des jeunes quand même qui majoritairement, en tout cas on peut le penser, mais bon, après avoir vécu ce que j'ai vécu jeudi dernier, rien n'est impossible, et si vous voulez, on peut penser qu'il y a aussi un certain nombre de jeunes qui se sont fait encercler. Mais finalement, là on a quand même l'impression que c'est une jeunesse politique qui a envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. Alors, est-ce que ce sont les anarchistes? Il y en a peut-être, hein, sûrement. Est-ce qu'il y a des trotskistes? C'est possible également. Est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient des casseurs déjà qu'on a vu aux Invalides? C'est possible. Finalement, là, on a un mouvement qui est beaucoup plus général. Et puis, l'estimation à peu près de Florent, je pense qu'on a entre 800 et 1000 jeunes qui sont pris en étau, en fait, entre les deux rangs de forces de l'ordre.
Entendu.
Et peut-être plus, même, hein, oui, parce qu'on n'a pas l'autre côté, si vous voulez. Nous, on est d'un seul côté de la place. Donc, c'est assez difficile de se faire une idée complète de ce qui se passe. On a une banderole, là, de la CGT, qui est donc un syndicat de gauche, hein. Une banderole de la CGT qui a essayé de se rapprocher des rangs de police et qui a été chassée à coups de canon à eau. Voilà.
D'accord, bon, apparemment ça promet. Alors, on a entendu donc sur certains sites, Alter et compagnie, qu'il y aurait quelque chose à la Sorbonne. Est-ce que
alors,
vous savez,
ou de votre côté? Nous ne sommes pas allés à la Sorbonne. On dit pas, on suppose, hein, comme tous les soirs de manifestation, la Sorbonne est le théâtre d'affrontements violents. Alors là, on ne sait pas. On pense que honnêtement, oui, ça doit être le cas. Hein. Surtout vu ce qui se passe ici, on pense que c'est également la même chose à la Sorbonne. Mais c'est vrai que là, on n'a pas pris le temps d'y aller, étant donné déjà tout ce qu'il y avait à commenter ici, malheureusement, avec ces événements violents. Et puis l'impossibilité pour les gens qui sont en métro République de sortir. La plupart des gens, hein, des quidam, hein, qui essaient de sortir, qui peuvent pas sortir. Ce qui veut dire qu'en fait, on est dans une... On ne sait pas ce que la... Enfin, le terme sera peut-être un peu usurpé, mais on n'a pas une loi martiale, c'est que c'est vraiment la police, là, qui gère toutes les sorties, toutes les entrées des gens, possiblement. Et puis, là, les manifestants qui, ou les casseurs qui redonnent de la voix avec des slogans contre le TPE et contre...
D'accord. Alors, écoutez, si jamais vous avez quelqu'un qui est dans les parages de la Sorbonne, ce serait quand même sympa qu'il nous appelle. C'est aussi un appel qu'on lance à nos auditeurs parisiens. S'il y a quelqu'un de Paris qui entend ou voit quelque chose aux alentours de la Sorbonne, ça nous intéresse. Roland, on vous reprend tout à l'heure. Ça va?
De toute façon, vous pouvez m'appeler. Je pense qu'on va faire un tour à la Sorbonne quand même. Sauf si vraiment ça reste aussi entre guillemets, hein, intéressant ici.
Entendu. Voilà. Écoutez, ne quittez pas le poste et puis on va essayer de gérer un petit peu avec tout ça. Pour le moment, on va passer un petit disque et on vous rattrape ensuite. D'accord?
D'accord, très bien.
Nous sommes de retour. Apparemment, nous avons quelques légers petits problèmes techniques, indépendants de notre volonté. Évidemment, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Il s'agit donc des États-Unis qui téléchargent abondamment la vidéo du juge Scalia. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec nos amis du Salon Belge. Alors, je crois que j'ai avec moi Michel Janva.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, je vous conseille à ceux qui sont en ligne sur Skype de débrancher le stream parce que sinon on va avoir de l'écho. Ça, c'est une petite chose à faire d'abord. Alors, bienvenue. Donc, c'est le célèbre Michel Janva du Salon Belge, c'est bien ça?
À ce point-là.
D'accord. Et puis, il y a aussi, je crois, notre ami Lahir. S'il
oui,
est là.
Tout à fait, je suis là.
Voilà. Donc, à tous ceux qui sont en ligne sur Skype, un conseil, débrancher. le stream, sinon on va avoir un petit peu d'écho. Et pour nos auditeurs qui auraient du mal à se connecter en raison de l'afflux d'Américains sur le site, eh bien nous sommes absolument désolés et nous enregistrerons évidemment l'émission. On aura tout à l'heure Roland Richard, et ceux qui veulent intervenir et ceux qui arrivent à nous recevoir et qui veulent intervenir peuvent le faire donc via Skype toujours, ou via email, ou encore par téléphone au 00 41 43 526 80 99 ou 99 pour les Suisses. Voilà. La musique de tout à l'heure, c'était un bon yodel de chez nous, n'est-ce pas, pour mettre un petit peu de paix dans ce monde de brut. Et puis un petit morceau de guitare électrique qui ne fait jamais de mal. Alors, dis donc, nos amis parisiens, je vous entends bien les deux?
Oui, oui, on est là.
D'accord.
Moi, je suis parisien, Michel Jean-Vap. Je suis parisien.
D'accord. Et l'Aïr voilà. Aussi, j'imagine. C'est de Paris. L'Aïr?
Oui, oui, je suis là.
D'accord. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu les choses un peu plus claires en ce qui concerne le CPE? Est-ce que vous avez eu des échos en tant que spécialiste du Salon Belge? Vous avez su...
Ce que je peux confirmer actuellement, c'est qu'il y a des incidents très violents qui se poursuivent en ce moment même à place de véritables scènes d'émeute. Bon, d'après ce que disent les informations, il y aurait plusieurs milliers de jeunes casseurs qui s'opposent aux forces de l'ordre avec des bouteilles, des cailloux, des morceaux de mobilier urbain, des morceaux de bois. Des grenades détonantes, des lacrymogènes. Bon, les forces de l'ordre ont répliqué avec des canons à eau, mais ça continue.
D'accord.
En ce moment même.
Bon, apparemment c'est dingue. Une question un peu bête, quand est-ce que ça va arrêter tout ceci? Ça fait quand même plus d'un mois que ça dure maintenant, on dirait.
Bonne question. qui va s'arrêter en premier? Qui va reculer?
Bon, bref. L'Aïr, de ton côté, je sais pas si tu partages les hésitations de Michel Janva.
Je me suis pensé. Non, comment ça va finir, c'est pas évident. Tant que le politique campe sur ses propositions, les syndicats, de leur côté, en profitent pour agiter la France et des étudiants qui, eux, ne sont pas concernés par le CPE. Donc une agitation non fondée et stérile d'un côté et un politique ferme de l'autre, ça peut aller jusqu'aux vacances peut-être. Après il y a les examens, peut-être que les étudiants se calmeront.
Alors est-ce que vous pensez que ça va franchement suffire? Effectivement, l'arrivée du soleil ou je sais pas, la pluie un week-end et les émeutes s'arrêtent, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche en France?
Il faut se souvenir quand même, moi j'étais pas là, hein, mais on raconte que c'était le plus beau mois de mai depuis 20 ans. Il y avait du soleil et il y avait beaucoup d'agitation et le soleil aide, donc la météo influe. Maintenant il n'y a pas que ça qui influe, il faut voir aussi que là il y a quand même des éléments incontrôlés dans cette manifestation, incontrôlés par les syndicats, incontrôlés par ceux qui veulent déstabiliser le pouvoir en place en vue de 2007. Donc c'est très difficile de faire des projections sensées, quoi.
D'accord. Et bon, d'un point de vue purement l'information, est-ce que vous pensez que les blogs sont plus qualifiés que les médias en général pour couvrir ce type de choses? Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'informations qui échappaient aux grands médias de par le fait qu'ils ne passent pas autant de temps que les blogueurs à fouiller Internet. Votre avis là-dessus, peut-être?
Michel, tu prends ou...
Ouais, à mon avis, les médias ne font passer que ce qu'ils veulent bien faire passer. Alors, tandis que sur les blogs, autant que sur les radios libres, hein, je dirais, nous avons toute liberté et aucune censure pour informer de la réalité les Français.
D'accord. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre un petit disque, encore une fois, et on va essayer de rattraper notre ami Roland Richard. Michel et Laïr, je vous remercie bien, et puis si jamais on vous rattrape ensuite. Ça marche?
Merci bien, ouais.
À tout à l'heure.
Merci beaucoup.
I'm gathering people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. Give your time to eat. is worth saving. And you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Alors nous sommes de retour sur Bafweb Radio. Nous connaissons toujours quelques légers problèmes de connexion pour nos auditeurs en raison donc de l'afflux massif d'auditeurs américains à cause de la petite histoire du juge Scalia, à laquelle le BAF s'est trouvé un petit peu malencontreusement mêlé. Voilà, bon, mis à part le fait que la dite cassette du BAF avec le logo flambant neuf du BAF se retrouvait sur la vidéo sur CNN, Fox News et compagnie, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense qu'on en reparlera plus profondément un autre jour. On va plutôt essayer de rejoindre notre ami, donc notre courageux reporter de choc, Roland Richard. On l'appelle dès maintenant pour essayer d'avoir une connexion. En attendant, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous contacter par Skype et éventuellement aussi par email. Il y a plusieurs solutions évidemment. J'essaie toujours d'avoir notre ami. Voilà. Ça sonne toujours. En attendant, donc, les auditeurs qui veulent nous contacter peuvent le faire via l'interface de Skype.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Roland Richard.
Bon, ça c'est plutôt mauvais signe. On va se passer un petit disque et puis on va s'atteler à la connexion avec donc notre ami Francis. Vous pouvez donc toujours nous contacter sur Skype, évidemment, et sur email, toujours. Le temps juste de trouver un petit disque. Ça y est, c'est compliqué quand même. On vous envoie ça et on vous reprend tout à l'heure. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to be there. Allô? I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. What's that sound? Hey, allô?
Allô, t'es là?
Oui, excusez-moi, je suis pas ça.
J'avais peur de pas arriver à t'atteindre. Bon, alors écoute, je coupe la musique et on reprend tout de suite. Hein.
D'accord.
Bah, on est déjà en ligne en fait, puisque j'ai oublié d'enlever le son. Bon, c'est vraiment du bricolage. Alors, je coupe et on y est. Alors voilà, chers auditeurs, aujourd'hui c'est le Bronx, c'est comme ça. On rejoint justement un Bronx un peu plus réel, notre ami Roland Richard à Paris, entre une rangée d'anarchistes et une rangée de policiers. Comme d'hab, eh ben, tu finiras encore la nuit en tôle. On compte pas sur nous pour te courir après cette fois-ci. Alors, on en est où, là?
Alors, écoute, Sadaïen, c'est très simple ce qui se passe aujourd'hui, là, maintenant. Donc, c'est que un carré de police s'est refermé donc, sur les manifestants ou les casseurs qui étaient restés. Et donc, là, ben, on va procéder petit à petit aux interpellations. Il y a eu quelques charges. On a vu beaucoup de flashs de journalistes. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez impressionnant. Peut-être un des manifestants qui s'est fait choper et puis taper, tout simplement. Ou alors tout simplement une charge de policier qui s'est fait photographier. Bref, il vient de se passer quelque chose, mais on peut pas être plus près. Je vous assure qu'on a une position ultra privilégiée de ce qui se passe. À mon avis, on voit presque mieux que certains policiers. Donc c'est vous dire que. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, pour l'instant, on est un peu en stand-by. Je pense qu'ils procèdent aux interpellations petit à petit, c'est-à-dire qu'ils prennent un par un les gens et puis ils les emmènent. Mais je vois pas de bus d'interpellation où les jeunes gens interpellés pourraient être stockés entre guillemets. Donc je sais pas, c'est vraiment très violent. Il y a beaucoup de bruit de verre partout. Il y a beaucoup de projectiles lancés. Il y a des charges. Il y a des retours des forces de l'ordre.
Encore maintenant.
Bah oui, si vous voulez, vous avez des petits groupes de policiers qui s'avancent parce qu'ils sont provoqués ou alors inversement qui viennent mettre ce qu'on appelle un coup de pression à des jeunes qui lancent des projectiles. On sait pas très bien. En fait, si vous voulez, je suis à 50 mètres du carré et je suis à 15 mètres en fait en hauteur.
D'accord.
5 mètres, 3 mètres.
Mais est-ce que ça te semble plutôt fini ou au contraire ça?
On a l'impression quand même que c'est en train de se terminer, ouais. Honnêtement. Okay. Et puis alors, ce qui est assez surprenant, ce qu'on comprend pas vraiment, c'est que les forces de police en fait on bloque la sortie des métros. Des bouches de métro. En fait, on ne comprend pas très bien pourquoi, mais elles bloquent les sorties des bouches de métro et donc les gens en fait qui habitent ici ou qui sortent du travail, ils peuvent pas rentrer chez eux. On comprend très bien pourquoi, mais bon, ils sont bloqués ici. Mais c'est terrible. Hein. Honnêtement, c'est affligeant ce qui se passe. Hein. C'est d'une violence. Je veux dire, c'est impressionnant. Hein. Honnêtement. Même aux Invalides, je suis pas sûr que c'était aussi important. Là, si vous voulez, vous avez, je vais peut-être vous dire une bêtise, hein, vous avez peut-être 500 policiers ou gendarmes mobiles qui entourent les quelques manifestants casseurs qui restent. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant. C'est pas du tout le genre de carré dans lequel j'avais été encerclé. Si vous voulez, nous, on était une petite centaine à l'intérieur et on avait 200 policiers autour de nous, quoi.
D'accord.
Là, c'est vraiment un très, très, très gros carré. Et c'est très impressionnant, honnêtement, c'est très très impressionnant. Sachant qu'il y a quand même un certain nombre de casseurs qui, à mon avis, ont réussi à s'en aller avant, hein. Ça, c'est évident. Donc voilà.
Et donc il resterait environ combien de personnes?
Vous voulez dire au centre du carré?
Oui, là maintenant, en gros.
Là maintenant, au centre du carré, je dirais 250, 300, peut-être 400, mais maximum 400, je dirais.
D'accord, et l'ambiance est comment, plus ou moins?
délétère. Il y a une tension extrême. On a l'impression que ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Bien qu'on ait l'impression quand même que les forces de l'ordre gèrent entre guillemets la situation, on a quand même l'impression que c'est quand même très violent ce qui se passe là. Hein. Je veux dire, c'est.
D'accord.
Vous avez, en plus, il faut voir que il y a des effets de visuels qui sont terribles parce que vous avez donc des boucliers pour chacun des policiers puis des casques avec des visières, et comme vous avez des réverbères, en fait, à chaque fois que le policier bouge, ça fait des petits reflets. Donc vous voyez à quel point c'est impressionnant le nombre de policiers qui sont présents.
C'est poétique.
Donc
quand
c'est
même.
Et puis évidemment tous les gyrophares des camions de police qui encerclent toutes les rues alentour, des boulevards dans lesquels nous nous trouvions il n'y a pas si longtemps avec Florent, et où nous avons échappé sans doute aux interpellations.
Voilà. D'accord. Alors quel est le programme maintenant, Roland ?
Alors le programme, je pense qu'on va finir par s'en aller. On va essayer de passer à la Sorbonne pour voir ce qui s'y passe.
D'accord.
Et puis on va quitter République parce que je pense que le gros est passé et que on verra. Je sais pas si c'est réellement des gens violents qui ont été interpellés ou pas, qui vont être interpellés là. Je pense qu'il y a un groupe de gens violents. Alors est-ce qu'ils vont être relâchés comme jeudi soir, parce que dans les gens violents il y avait un certain nombre de gens violents qui ont été relâchés jeudi soir. Alors est-ce que c'est exactement la même chose qui va se reproduire ou non, je peux pas vous dire. Mais bon, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un gros flot d'interpellations ici à la République, sans compter les interpellations qui doivent peut-être même avoir lieu en ce moment à la Sorbonne.
Entendu.
Donc on. Oui, oui.
Alors à quelle heure plus ou moins je peux te rappeler, Roland ?
Bien, écoute, je sais pas très bien combien de temps on va mettre, parce que le problème, c'est qu'à mon avis, il y a un certain nombre de métros, de stations de métro qui devaient être bloquées ou fermées.
Mm-hmm.
Donc on va essayer de trouver la première possible. Il faut qu'on essaie de prendre la ligne 11 qui va nous ramener à Châtelet et descendre ensuite à la Sorbonne par la baie. Et alors là, je vous dis, là nous sommes en direct, alors j'ai un chargement de CRS, j'ai une charge de CRS vers le boulevard Voltaire.
Est-ce que tu peux nous avoir un petit peu de son là éventuellement ? Est-ce que tu peux nous avoir du son ?
Je vous ai tout enregistré, hein. Tout ce qui n'était pas appel, je vous l'ai enregistré.
D'accord, mais si ça se passe maintenant, est-ce qu'éventuellement...
Non, mais il y a pas de son parce que c'est assez loin là, si vous voulez, c'est à 150 mètres
d'accord,
de terre, ouais. Là, de là où on est. Donc, mais je peux vous le décrire que visuellement.
On t'écoute,
en
vas-y.
En attendant d'avoir du matériel. Alors, est-ce que c'est une charge ou est-ce que c'est un repli de force? Je sais pas très bien. Ce qui est assez impressionnant, si vous voulez, c'est que on a l'impression qu'en fait, il y a toujours plus de policiers. Il y en a toujours plus et encore plus. Comme si c'est impressionnant. Vous allez à un coin de rue, il y a encore 5 bus de police que vous n'aviez pas vus. Puis vous tournez encore dans une autre rue, il y en a encore 5 bus. Alors il y a vraiment une charge de policiers, vers le boulevard Voltaire. Alors est-ce qu'il y a eu des gens qui sont arrivés en renfort, des gens de la CNT, des anarchistes, des trotskistes, des gens des banlieues, des gens des quartiers difficiles, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a une charge. Bon, là, je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que je descende du petit monticule où je me trouve sans me casser la figure. Donc, je vais vous laisser.
D'accord.
Et essayez à la limite de me rappeler d'ici une petite demi-heure. Je pense que je serai à la Sorbonne à ce moment-là.
D'accord.
Voilà.
Entendu, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bien, alors, chers auditeurs, vous avez entendu Roland. On va essayer donc de le rejoindre dans une demi-heure, ce qui nous permettra ce qui nous forcera un petit peu à dépasser l'horaire prévu. Les nouveaux horaires justement de BAF Radio sont des horaires non contraignants. On peut justement s'offrir le plaisir de les dépasser, vu qu'il n'y a pas de programme particulier et qu'il n'y a pas de directeur pour nous dire quoi faire. On fait un petit peu à notre idée. En attendant, vous pouvez toujours vous manifester via Skype, via email ou par téléphone au 00 41 43 526 80 99. Je sais qu'il n'y a pas énormément d'auditeurs en ce moment en ligne en raison des problèmes de réseau que nous connaissons et pour lesquels nous nous excusons. C'est toujours nos amis américains qui chargent massivement la cassette du juge Scalia. Donc, si vous connaissez du monde qui est susceptible d'être contacté pendant justement cette soirée parisienne, nous nous occupons des frais de téléphone, c'est pas du tout un problème. Ou si vous voulez nous appeler, si vous voyez quelque chose de votre fenêtre, ou depuis chez vous, si vous passez devant, appelez-nous, ça nous intéresse toujours. On se repasse le disque de tout à l'heure, et puis on vous reprend tout de suite.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying sign. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. What's that sound?
Radio. Nous essayons péniblement de régler nos petits problèmes de serveur, toujours dû à nos amis américains qui se ruent sur la vidéo du juge Scalia. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à nous joindre, mais nous avons du mal à les attraper. Je vais toujours essayer de récupérer notre ami... Où est-ce qu'il est passé, Laïr ? Alors, voilà... C'est du direct. On récupérera évidemment notre ami Roland Richard tout à l'heure quand il sera passé devant la Sorbonne, où nos amis d'Indie Media nous ont promis le grand cirque. Laïr, bonsoir. Tu m'entends? Allô?
Allô?
Allô, tu nous entends?
Voilà, ils attendent beaucoup de monde.
Voilà, il faut couper le stream hein, si tu veux qu'on puisse discuter.
C'est très très confus tout ça.
Voilà. Coupe la radio.
Ça y est, c'est fait.
D'accord. Donc, tu as dit que Henri de Védas du Salon Belge essaye aussi de nous atteindre, c'est ça?
Oui, tout à fait, il a des difficultés techniques.
D'accord, on essaiera de le rattraper tout à l'heure. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. On a un autre auditeur.
Ouais, voyez-vous, vous y arriverez ce soir.
Allô? Arnaud?
Oui.
Comment ça va?
Pas très bien. Est-ce que vous y arriverez ce soir à faire votre émission?
Ce soir, ça m'a l'air un petit peu dur, mais bon, comme on enregistre, on pourra toujours mettre quelque chose en accès. Tu nous appelles d'où?
Je suis parisien.
D'accord.
Ici, hein, plus exactement.
Et alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Vas-y, va.
Bon, moi, je trouve ça assez amusant de voir cette jeunesse désœuvrée, moi qui suis un jeune travailleur, de voir cette jeunesse désœuvrée dans la rue avec mes impôts, c'est tout. Mais c'est assez amusant de voir que même dans le monde, dans l'entreprise aujourd'hui, il y a toujours du monde?
Oui, toujours là, ouais, vas-y.
De voir que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, même les jeunes qui sont chez moi en contrat de qualif ou qui sont stagiaires n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir avoir un CPE quand même. Et pourtant, la population n'est pas forcément une population, on va dire, de jeunes bourgeois privilégiés. C'est plutôt même l'inverse. Et c'est assez étonnant de voir justement que, bah, malgré tout, ils sont de gauche, mais ils vont bosser, quoi.
D'accord.
C'est assez étonnant.
Enfin, je veux dire, nous en Suisse, où on est un petit pays de gens bien sages, où on aime travailler, on est un petit peu étonné par toute cette réaction pour quelque chose qui était en fait une solution, quoi. Je veux dire, moi, je m'explique mal.
Moi, j'ai signé, pour te dire, j'ai signé un CNE, moi.
D'accord.
Au mois de novembre, je commence à avoir un peu d'expérience professionnelle parce que ça fait 10 ans que je bosse. Mm-hmm. Mais j'ai signé un CNE. Au départ, j'en voulais pas, pour la simple raison, je suis marié, j'ai 3 enfants.
D'accord. Et tu as quel âge?
J'ai 30 ans.
D'accord.
C'est vrai que je me suis dit, marié, 3 enfants, demain ils foutent à la porte sans motif. Mais en réfléchissant, je me suis dit, de toute façon, s'ils veulent me foutre dehors, ils me foutront dehors. Que c'est juste un prétexte. Et la conversation que j'avais aujourd'hui avec mon équipe marketing était celle-là, c'est que personne s'est levé contre le CNE, tout le monde se lève contre le CPE. Moi, ce qui m'amuse le plus dans cette histoire de CPE, c'est que j'ai pas encore vu une seule école de commerce en grève, bloquée. Peu de facs de droit, je crois. Je crois que le constat est le même pour tout le monde. Il y a que les formations voies de garage qui sont dans la rue.
Peut-être ouais, c'est un petit peu ça. C'est clair que les clubs de golf et les clubhouses vont jamais fermer, ça.
Non, mais je pense que sociaux et psycho, enfin, faut fermer cette. J'espère que personne n'a fait psycho ou sociaux, mais je pense qu'il faut fermer ces modules parce qu'ils servent à rien. Ils servent à rien. Aujourd'hui, il faut gagner de l'argent. Donc,
ouais, il faut bien récupérer les fils à papa, tu sais. Je veux dire, c'est...
Non, les fils à papa, il faut pas forcément sociaux et psycho.
Enfin, tu vois, moi-même...
On les retrouve plus à Panthéon ou à Sas, ou dans certaines écoles de commerce, plutôt qu'en sociaux ou psycho. Je pense que... Enfin, je sais pas, moi, c'est pas trop un fils à papa, je suis un fils de fonctionnaire, mais... je pense que le problème principal aujourd'hui, c'est le coût du travail. On entend le ministre en parler tout le temps, mais... Moi, j'espère qu'une chose, qui ne suis pas un UMP convaincu, et je suis pas prêt de l'être demain, c'est-à-dire qu'une seule chose, c'est que pour une fois, ils ne décident pas leur pantalon.
Alors.
Mais j'y crois pas. Je crois qu'ils feront.
Est-ce que la solution serait une forme d'université restrictive où on donnerait les diplômes en fonction des places de travail?
Moi, j'écoutais là, les actus entrant chez moi tout à l'heure. Je discute. Mais t'occupe, je mon épouse.
On dit bonsoir à madame, bonsoir.
J'ai une vraie conversation. Je suis rentré chez moi tôt ce soir justement pour voir un peu les images de ce qui se passait. Il faisait un parallèle avec ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui.
Mm-hmm.
Savoir que de plus en plus d'entreprises investissent dans les écoles. Et je trouve que c'est le meilleur truc aujourd'hui. Enfin, c'est une façon de relancer l'apprentissage en plus. Les entreprises maintenant peuvent mettre des ronds dans les écoles en Angleterre, et je trouve ça plus qu'intéressant. Le problème, c'est que la France, on n'est pas prêt d'y arriver. Mais parce que là, ce sera pas comme il y a 10-3 millions de gens dans la rue.
Bon, mais tu vois, j'ai quand même te donner un exemple. Je veux dire, on a vécu ça en Suisse aussi, où des écoles polytechniques très 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 avancées ont reçu du financement publicitaire de fondations style Sony, etc., hein, qui de façon très philanthropique donnaient énormément d'argent pour formater les élèves au travail qu'ils auraient plus tard. Et puis on leur apprenait à faire des pièces de Walkman qui s'usaient après un an et demi, la garantie étant d'un an.
Oui, non mais ça, je suis d'accord, mais aujourd'hui quand tu prends une école d'ingénieurs française, je connais pas le modèle éducatif suisse, hein, mais tu prends une école d'ingénieurs française, les entreprises sont présentes. Tu prends une école de commerce, les entreprises sont présentes continuellement. Donc le problème est là, je pense que il serait peut-être intéressant que l'entreprise revienne un peu dans l'école et qu'on ne fasse pas le tout statut du corps fonctionnarial.
D'accord. Mais on est d'accord quand même toujours avec un certain contrôle de l'État pour conserver la vocation vraiment académique des hautes écoles.
Je pense que le rôle de l'État n'est pas de faire le système éducatif. On a un problème en France qui est le principe de subsidiarité. Normalement, on devrait favoriser les familles françaises, je ne veux pas dire quelles qu'elles soient, parce qu'il faut faire certains distinguos, mais l'enseignement national, l'instruction nationale, devrait être qu'un moyen, parce qu'on n'a pas pu répondre à une demande. Est-ce que je suis clair?
Ouais, d'accord.
À peu près. C'est-à-dire que, en fait, on devrait laisser l'initiative aux parents de pouvoir créer des écoles. Si les enfants ne peuvent pas accéder à ces écoles, là, c'est l'État qui vient se substitue à ce système. Et pas à l'inverse aujourd'hui.
Mais tu vois, je veux dire, bon.
Moi, j'ai l'exemple.
Mais tout est comme ça. Je veux dire, il faudrait laisser la libre entreprise, la libre initiative. Il faudrait que l'État lâche la grappe aux entreprises. Quand on voit ce que vous payez en impôts en France, mais nous, les Suisses, mais ça nous rend bleu, quoi. Je veux dire, c'est absolument effrayant. Ensuite, il faudrait que l'État lâche la grappe aux familles. Et puis, il faudrait, bon, je veux dire, quelque part aussi, il faut de la protection. J'ai l'impression que l'ultralibéralisme, quelque part, a mené à une situation qui rend légitime certaines plaintes d'une gauche qui, quand même, que vous avez en France, qui est assez extrême, et qui prend toujours le pli d'exagérer, et puis qui a fortiori commence presque par avoir raison à force de libéralisme.
Mais la droite, c'est pareil. La droite en France, c'est exactement le même jeu.
Bah, ils proposent quand même de diminuer un petit peu les charges, quand même, histoire de flatter un peu le patron.
Ouais, enfin, moi je le vois pas comme ça. Donc, faire quelques embauches en ce moment, moi je le vois pas comme ça. Enfin, je ne vois pas aujourd'hui, moi, dans ce que je fais dans la vie, les charges qui baissent. L'endroit qui arrive derrière. Alors, c'est sûr, on va baisser à gauche pour remonter à droite. C'est le problème des vases communicants français, c'est qu'on va dire, pas de problème, on va baisser vos impôts locaux. Enfin, pas les impôts locaux, pardon, l'impôt sur le revenu. Mais à côté de ça, on va augmenter notre TVA sur certains produits. Ou on va augmenter des produits à forte valeur de TVA. Pour l'exemple le plus simple en France aujourd'hui est dans l'essence. Je sais pas combien coûte l'essence à Genève, mais d'accord, on a baissé les impôts sur l'impôt sur le revenu en France, mais on l'a augmenté deux fois plus de l'autre côté. Donc je pense pas que ça soit un problème droite-gauche, je pense que c'est un problème tant que on n'aura pas un grand homme qui arrivera, qui mettra un grand coup de pied dans la fourmilière, je ne vais pas faire de rappel historique français, mais tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui mettra un grand coup de pied dans la fourmilière, ça se passera pas comme ça. C'est-à-dire que ça soit aujourd'hui les socialistes qui passent au pouvoir, l'UMP ou l'UDF, ou les communistes, et je fais exprès de ne pas en citer d'autres, on n'y arrivera pas.
D'accord.
Je pense qu'il y a
On va faire un peu bref parce qu'il y a du monde gentiment derrière. Ouais. Donc ce grand homme, pour faire quoi, pour régler la question du CPE par exemple maintenant, là, le problème direct, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse en deux mots?
Qu'il s'aide pas. Je pense que la meilleure des choses à faire, alors qu'il s'aide pas, tant mieux parce qu'il sera pas élu.
Voilà. D'accord.
Qu'il soit gros ou petit. Hein.
Ok.
C'est-à-dire que le gouvernement d'aujourd'hui, il faut pas qu'il s'aide. Pour ça, déjà, il sera pas réélu.
Okay.
Et les socialistes ne prendront pas sa place.
Entendu. En tout cas, Arnaud, merci d'être intervenu. Et
de
puis,
ça aurait été assez clair. Hein. Bientôt.
Tout de bon, hein. Au revoir.
Ciao.
Alors, nous avons maintenant notre ami Védas du Salon Belge toujours.
Oui, bonjour Adrien.
Comment ça va?
Ça va bien et vous?
Bien, bien. Alors,
ça fait plaisir de vous avoir.
C'est gentil, moi aussi. Oui, c'est vrai que c'est une des premières fois qu'on s'entend. Hein. En tout cas, via BAF Radio.
Ouais, alors, on s'est vu physiquement à la Marche pour la Vie.
C'est ça, voilà, oui, je me souviens de ça. C'était un moment épique. De temps en temps, le petit Suisse que je suis vient s'aérer à Paris pour voir des choses neuves. Alors, alors,
j'appelle pour renverser un peu les rôles, pour poser des questions, parce qu'il vous est arrivé une drôle d'aventure, et je voudrais bien que vous preniez quelques minutes pour en parler à vos auditeurs, parce que je crois que c'était un moment assez important dans l'évolution des nouveaux médias. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vidéo par laquelle le scandale est arrivé?
Oui, alors bon, ma foi, par modestie, vous me connaissez, je voulais pas trop en parler ce soir. Je note aussi il faudra rappeler tantôt notre ami Roland Richard qui se dirige en direction de son destin et de la Sorbonne. On ne sait pas s'il va encore finir dans un panier à salade, le pauvre. Donc, restez à l'écoute, on essaye, enfin ceux qui peuvent évidemment, parce qu'on a toujours des problèmes de téléchargement. Alors, pour revenir à cette histoire de Scalia, ben écoutez, c'est bien simple. Une de mes amies qui est à l'université à Fribourg m'avait dit, écoute, va voir, il y a un juge de la Cour suprême qui va donner une conférence. Mais elle m'avait balancé ça comme ça parce qu'elle savait que je m'occupais un peu de ce site et que, donc le BAF Web, et que je m'occupais un petit peu des questions de la Cour suprême. Elle allait lire de temps en temps, mais sans plus. Et moi, automatiquement, je me suis jeté sur la chose. Je suis allé là-bas avec ma petite caméra. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de lui faire un peu parler de ce qui se passait. La nouvelle de l'interdiction de l'avortement dans le Dakota du Sud venait de tomber. Et donc, je voulais avoir une réaction, notamment par rapport à ça. Et puis, le processus successif qui doit aboutir à la révocation de l'arrêt Roe versus Wade, qu'on connaît bien sur le Salon Belge, hein, je pense.
Oui, et vous n'avez pas été déçu, parce que je crois que vous avez fait une réponse assez intéressante qui a été reprise sur des sites importants américains.
Alors voilà,
sur cette première question de l'avortement.
Il avait fait une première réponse qui était, par rapport au Dakota du Sud, j'ai rien de droit de dire, c'est sûrement pas toi que je dirais en premier, ça c'était assez clair. Et puis, l'autre c'était, oui, on pense qu'un jour peut-être, mais en tout cas pas maintenant. Donc c'était vraiment une succession de non-réponses, et pourtant c'est pas quelqu'un qui utilise la langue de bois. Au contraire, c'était assez direct. Hein. Il avait tout un parterre d'universitaires fribourgeois bon ton, n'est-ce pas, des juristes qui lui ont reproché tous les crimes, donc tous les péchés d'Israël et les crimes états-uniens depuis la déclaration d'indépendance. Et il s'était pas laissé démonter. Il avait quand même vraiment attaqué assez sec sur ces questions-là. Et alors, puis, alors,
je pense qu'on peut dire, puisque tout le monde ne le connaît pas, que c'est quelqu'un que moi en particulier, enfin, le Salon Belge, on admire assez. On dit que c'est le membre le plus conservateur de la Cour suprême. C'est pas forcément vrai si on regarde les votes des juges, mais c'est en tout cas un juge qui a une rigueur intellectuelle et une probité intellectuelle qui est assez et qui est quelqu'un de très sympathique, de ce que j'en ai vu lors de vidéos de conseils.
Des bafons de Brooklyn qui est là et puis qui s'est fait avec ses petits points et puis qui se laissait pas démonter, et il a eu une tirade absolument magnifique qui a laissé tout le monde quoi. C'était de manière, vous tous les Européens, vous avez le crâne bourré par la presse de gauche. C'était quand même un rare moment de plaisir quand on n'est pas à gauche et quand on vit dans ce pays et qu'on fréquente cette université. Donc ça, c'était relativement.
Mais il connaît très bien l'Europe. C'est quelqu'un qui passe bien sûr beaucoup de temps dans les colloques de juristes en Europe et qui dit des choses très sensées, en particulier lors d'un arrêt qu'il a signé, ou plutôt une dissension sur un arrêt portant sur l'exposition des 10 commandements. Il portait des jugements de fins connaisseurs sur la laïcité européenne. Donc ça, c'était la première étape, c'est-à-dire la question que vous avez posée et la réponse très intéressante qu'il a donnée sur l'avortement, mais ça a eu un rebondissement ces derniers jours.
Alors voilà, oui, bon, avant ça, me dire ce qui m'avait frappé aussi, c'était sa position vis-à-vis de toute la question de l'intervention du droit. Parce qu'en Suisse, on y arrive gentiment aussi, où tout d'un coup, par exemple, la Cour suprême, disons, le tribunal fédéral suisse...
s'arroge du pouvoir.
A fait pire que ça, je veux dire, il s'est emparé du pouvoir en annulant des décisions démocratiques de plusieurs communes suisses, parce qu'il faut savoir que la nationalité, dans certaines communes, c'est tous les ressortissants de confession musulmane, généralement du Kosovo, etc., avaient été rejetés, et tous les Italiens, les Portugais avaient été acceptés sans aucun problème. Et ça, donc, c'était absolument inconstitutionnel. Et pour la première fois, un tribunal d'une poignée de types avait annulé une décision d'un vote populaire, ce qui était quand même, en tout cas en Suisse, quelque chose d'assez énorme.
Et c'est si Huguette sur l'Union Européenne également.
Ouais, bon, ça, l'Union Européenne. Bon, déjà en France, nous en Suisse, on considère que vous n'avez pas vraiment la démocratie. Si vous aviez la démocratie, vous n'auriez pas tout le cirque que vous avez aujourd'hui, hein, avec le CPE. Alors bon, ça. L'idée est que, moi, ce qui m'avait intéressé surtout chez lui, c'est qu'il disait finalement, on peut être d'accord ou pas d'accord sur les questions de la vie. Il avait justement été un petit peu évasif parce qu'il n'avait pas d'avis arrêté. Il était pour la loi naturelle, mais il se sentait pas particulièrement pro-vie, ce qui pouvait se comprendre. Mais il estimait avant toute chose que c'était en tout cas pas un juge de la Cour suprême de se prononcer là-dessus. Ça, c'était le côté un petit peu intéressant. Alors évidemment, moi j'étais venu pour les choses qui m'intéressent, c'est-à-dire la question de Roe versus Wade, et tout le monde était venu pour lui parler des avions de la CIA et de Guantanamo, et effectivement, donc il est intervenu assez sec là-dessus, il a parlé de son fils qui est en Irak, et puis il a dit assez clairement que c'était une guerre, que les États-Unis menaient une guerre contre le terrorisme, donc il a repris un petit peu la dialectique d'après le 11 septembre, et qu'il ne voyait pas pourquoi on ferait un procès à quelqu'un qui a été capturé sur le champ de bataille.
Voilà. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que devant la Cour suprême est en train d'être présentée actuellement, ou dans les jours qui viennent, une mise en cause de Guantanamo, du vide juridique composant de Guantanamo. C'est-à-dire que des juristes, des défenseurs des droits civiques veulent faire imposer à l'administration Bush le fait de mettre Guantanamo sous le régime général du droit américain, ce que ne veut pas Bush. C'est pour ça qu'il y a eu des rebondissements suite au fait que Scalia ait évoqué ce problème devant votre auditoire.
Alors effectivement, c'est le cas qui arrive maintenant, c'est Hamdam contre Rumsfeld, qui donc sanctionne la possibilité ou non d'avoir des tribunaux d'exception pour des gens... Alors leur statut est un petit peu sombre, est-ce que ce sont des soldats ou est-ce que ce sont des criminels, pas de guerre, mais dans la guerre? C'est un petit peu délicat, apparemment, donc la Cour suprême va devoir se prononcer là-dessus. Moi, je dis que j'ai
refuser de statuer.
Ou refuser de statuer, c'est possible. Alors, le fait est que, donc, justement, un juge de la Cour suprême qui se prononce de façon catégorique par rapport à un cas qu'il doit traiter plus tard, peut être révoqué.
Ou se récuser.
Voilà. Ou se récuser lui-même, je veux dire, ce qu'il n'a pas clairement l'intention de faire. Bon, il faut savoir que Scalia a déjà été révoqué pour une autre affaire, mais bon, je veux dire, c'est pas révoqué définitivement, ils sont nommés à
non.
vie.
Ils se récusent pour un certain procès, comme voilà. L'a fait John Roberts pour un procès, pour un arrêt, sur lequel il avait statué quand il était juge à une cour d'un échelon inférieur.
Voilà.
Puisque d'appel en appel, le cas était monté jusqu'à la Cour suprême, et il ne pouvait pas porter un jugement sur un procès qu'il avait déjà traité. Donc c'est quelque chose de routinier, mais qui est quand même un événement assez important aux États-Unis. Alors c'est pour ça que la vidéo que vous aviez mise en ligne a été reprise sur le site de Newsweek, je crois.
Là, bon, la vidéo donc avait tourné déjà sur les sites pro-life, etc. Puis apparemment, elle a dû attirer l'attention de quelqu'un. En tout cas, on a eu tout d'un coup, on s'est aperçu qu'on avait 3000 téléchargements comme ça en une nuit, et c'était Newsweek qui nous avait mis en lien, mais en lien direct, hein, ce qu'on appelle communément un hot link. Et c'est pour ça que ce soir, on est encore complètement bouché. Et à mon avis, c'est pas terminé. Et puis, donc, il faut savoir que Newsweek n'est pas franchement à droite. C'est un petit peu la côte est. Ce sont des médias qui tirent un petit peu sur la gauche américaine.
On dit que c'est le plus à gauche des trois grands news magazines américains. Voilà, les autres, ouais. Time et US News and World Report. Et Newsweek est le plus à gauche.
Voilà. Et donc, effectivement, c'est un petit coup, vraiment, contre Scalia. C'est une petite chicnote, parce qu'à mon avis, il n'y a rien dans la cassette qui puisse vraiment le gêner beaucoup. quoi qu'il en soit, tout d'un coup, on a été très vite contacté d'abord par CNN et ensuite par Fox, qui nous ont donc demandé de pouvoir publier la chose. Alors CNN effectivement l'a fait, en tout cas sur CNN America c'était, donc c'est quand même plusieurs dizaines, voire peut-être centaines de millions de téléspectateurs. La radio nationale aussi, ça c'est 20 millions d'auditeurs. NPR, et puis donc le BAF n'y est pas encore, d'autant qu'avec avec ses problèmes de flux, les 20 millions c'est encore loin. Et puis il y a eu aussi donc toute l'affaire de ensuite il y a eu CBS, ABC pour le Good Morning America. Donc apparemment c'est une jolie pastille qu'on peut faire avec cette affaire, mais ça m'étonnerait franchement qu'on puisse qu'on puisse vraiment le toucher avec ça. Je veux dire, Scalia est plutôt des juges de la Cour suprême que je voudrais ménager. Et si la vidéo avait représenté un quelconque danger réel pour sa carrière ou sa position dans la Cour suprême, je pense que je l'aurais pas distribué. Mais le fait est qu'on a pu le faire et puis que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. À mon avis, la vue de ce que j'ai pu voir, en tout cas à la radio et à un peu sur Internet, la nature des attaques tendrait plutôt à discréditer ceux qui les font. Maintenant, je vous dirais qu'avec exactement les mêmes passages et les mêmes les mêmes citations, Fox News en a tiré un truc qui était très conservateur et à la gloire de Scalia, parce qu'il parle quand même. Donc, à mon avis, ce qu'il dit est assez cohérent. Il se considère en guerre, donc partant de là, pas violé à encore discuter, ça c'est tout à fait, tout à fait d'accord. Il y a eu toute une campagne autour de Guantanamo, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé ou ce qui se passe à Guantanamo? C'est qu'ils sont effectivement coincés là et puis qu'ils n'ont pas de procès. Mais je veux dire, les dernières guerres, les gens étaient en prison jusqu'à ce qu'on fasse la paix avec l'adversaire et puis qu'on les renvoie. Or, le problème,
c'est qu'ils avaient un statut de prisonnier de guerre, ce qui n'est pas accordé. Et là encore, comme vous dites,
c'est
pas forcément à raison.
Alors, c'est un peu obscur, donc ils ont vraiment un statut d'exception. Et puis il semblerait quand même que les Américains veulent régler ce qui a perdu un petit peu toutes les puissances occidentales pendant les guerres d'indépendance. C'est qu'on était face à des gens qui n'étaient pas sous uniforme et qu'on pouvait pas traiter comme des militaires.
Bien sûr.
Alors là, il semblerait que les Américains aient trouvé une forme plus ou moins acceptable de compromis avec des gens qu'on considère comme des soldats, mais apatrides et dont on fait ce qu'on veut et qu'on effectivement on considère comme des soldats sans les considérer sous le droit de la guerre. C'est un petit peu particulier. C'est très américain.
Alors, ce sur quoi Scalia peut en particulier être attaqué, c'est qu'il a introduit des éléments de biographie personnelle dans son jugement. C'est-à-dire qu'il a dit que c'est parce que son fils était militaire, était en Irak, ou avait été en Irak, qu'il portait tel jugement, ou qu'il portait plus fortement tel jugement, sur le fait que ces gens n'avaient pas le droit à un procès, ou n'avaient pas le droit au bénéfice de la justice américaine. Donc peut-être que Scalia est attaquable là-dessus. Bon, de toute manière, c'est pas une question touchant au respect de la vie, c'est pas une question touchant à la liberté de religion aux États-Unis. Je pense que s'il est récusé sur ce procès-là, c'est pas un drame pour nous et pour le combat commun qui nous anime.
Non, je pense effectivement. Maintenant, je vois un petit peu l'intérêt que la presse de droite a eu. C'était cette citation « Mon fils y était ». C'est très américain, c'est du style « Je ne suis pas un planqué, j'y étais quand même, j'ai fait le boulot, c'est une guerre ». Il faut quand même savoir que qu'effectivement, toute la base argumentative de la droite aux États-Unis, c'est ça. C'est la guerre, c'est le 11 septembre, faut se défendre. Et quelque part, on peut effectivement regretter la façon dont c'est fait. C'est vrai que il n'y a pas d'autre terme, c'est le bordel. Les Américains ont mis le bordel. Et moi, j'étais cette année encore en Syrie, et j'étais à Tartous, il y avait sans arrêt des réfugiés chrétiens qui fuyaient l'Irak parce qu'ils se faisaient tirer dessus matin, midi et soir, et par tout le monde en même temps. Donc je veux dire, effectivement, pour l'équilibre géopolitique, si tant est qu'il y en a eu un jour, ce qu'ils ont fait en Irak est mauvais. D'un autre côté, ils sont peut-être les seuls à avoir compris qu'il y a quelque chose là au Proche-Orient qui s'apprête gentiment à nous tomber sur la gueule. Et j'ai quelques contacts avec des amis israéliens et ils se disent que quand même quelque part de savoir des Américains pas trop loin, ça peut être relativement rassurant. Ça peut aussi être le détonateur, mais il faut voir. Donc, mais il me semble quand même que le détonateur c'est plus l'islam et qu'un jour ça va leur sauter dessus. Mais bon, c'est un petit peu, on sent quand même que la gauche travaille le sondage négatif sur Bush et puis qu'il faut trouver un petit peu un moyen de démonter son équipe et que comme on a beaucoup parlé de la Cour suprême ces derniers temps, discréditer les conservateurs de la Cour suprême c'est plutôt un bon point. Mais je veux dire, ça à mon avis au niveau Je pense même pas qu'il devra se rectifier.
Ça c'est de la politique américaine. Voilà. Moi je vois surtout cette affaire sous l'angle des nouveaux médias francophones. Et pour moi c'est un événement. C'est-à-dire que non seulement ça vous a amené des visites, donc je crois plus de 10 000 téléchargements de cette vidéo. Donc ça c'est déjà important en soi. Mais c'est surtout le fait que ces médias donc hors circuit, hors norme, ont réussi à mettre dans le circuit et au cœur du débat des éléments nouveaux et une vidéo nouvelle. Et c'est pas seul que la blogosphère ou les contre-médias sur Internet prospèrent, c'est parce qu'ils s'insèrent dans le débat des grands médias également.
Oui, disons que c'est une façon de resserrer un petit peu la maille du filet médiatique. Je crois que là, d'abord c'est un coup de bol monumental, ensuite ça m'a peut-être amené des visites, mais ça m'a bouché complètement le site et ça m'a fait une nuit d'insomnie pour essayer de remettre le serveur en marche, ouais. Ça évidemment.
Et là, puis, ça me dit pas, c'est la révolution du bafoué Brest.
C'est ça, il y a quand même des contingences. Mais je crois que, oui, d'une certaine manière, c'est un coup de chance, et puis c'est en plus un coup de chance un peu naïf, parce que moi j'étais venu pour tout à fait autre chose qui d'ailleurs n'a pas intéressé une seule minute les médias qui se sont intéressés à la cassette par la suite. Je veux dire, j'avais fait tourner déjà...
Sauf Life Site News, peut-être que j'en oublie, qui ont quand même remarqué cette...
Voilà, bah disons, je l'ai fait tourner phrase. Un petit peu au départ, mais justement en direction des médias qui sont intéressés à la sensibilité pro-vie. Mais je veux dire, après avoir présenté à tout un peu les majors qui m'ont appelé hier, ils en avaient une affiche, c'était pas tellement leur histoire. Alors qu'à mon avis, il y avait même médiatiquement quelque chose à en tirer, c'était vraiment Guantanamo. Donc c'est aussi une façon de montrer que... Ma foi, aux États-Unis comme ailleurs, l'information reste très orientée, et puis qu'on ne s'intéresse qu'à un problème exact et pas à autre chose. Maintenant, ce qui m'a énormément frappé, c'est d'abord la gentillesse, le côté extrêmement cool et pratique de ces gens-là. Bon, à part à mon avis un type de chez Fox qui savait pas servir d'une souris, mais si vous voulez, ils sont là, ils vous traitent vraiment quelque part, pas forcément d'égal à égal, mais comme un petit peu le smart guy qui a touché un peu le loto, parce que c'est clair que c'est pas sans quelques retombées économiques non plus. Et puis vraiment, alors ils sont très intéressés, ils sont très aimables, et puis ils sont très réactifs comme ça. Alors que les contacts que moi j'ai pu avoir, bon, j'en ai pas eu spécialement avec les médias français, mais avec les médias suisses, mais ouais. C'est
Alors vous avez eu des contacts un peu orageux, alors je ne sais pas où ça en est, avec la TSR, sur une histoire qui est très parallèle avec cet épisode de Scalia. Puisque ce que vous reproche la télévision suisse romande, c'est de faire des liens vers leurs vidéos.
Voilà, oui, je suis puni. Alors,
ce qui est exactement ce qu'a fait Newsweek pour vous. Et vous en réjouissez.
Je suis châtié, mais bon, je veux dire, il faut que l'information tourne un petit peu aussi. Et puis, bon, l'idée, c'est que... il y a eu ça, il y a eu des attaques de ma part, effectivement, sur la façon dont ils ont traité l'information. C'est un petit peu notre devoir, aussi, quelque part, c'est de faire un peu de vigilance. Il y avait eu toute l'histoire du bébé mouette, où il n'avait pas voulu accorder une seule seconde de direct. Et on sent quand même qu'il y a une guerre, voire une guerre de mépris, contre le blog, du style vous êtes qui, vous avez une carte de presse, oui, non, de quoi vivez-vous, enfin on est vraiment les...
Et ça c'est partout.
On est les gueux de l'information, et ça franchement, les Américains c'est exactement l'inverse.
Il y a de ça aux États-Unis, il y a forcément la tentative par les médias établis de discréditer les nouveaux médias, de dire que c'est pas professionnel, qu'on y trouve tout et n'importe quoi, enfin toutes sortes de choses qui sont vraies, mais qui passent à côté de l'élément nouveau et essentiel, qui est qu'il y a des gens à qui on n'a pas donné de carte de presse et qui prennent voix au chapitre et bon. qui se font eux-mêmes leur place au soleil.
Bon, je pense que vous et moi sommes bien placés pour savoir qu'on n'est pas encore réellement une menace, mais disons, on peut toujours faire un excellent complément nutritionnel au niveau médiatique et les gens peuvent trouver autre chose. Si je pense, en tout cas, le BAF a commencé, je crois que c'est aussi le cas du Salon Belge, c'est parce qu'on n'était pas satisfait du bruit qu'on nous sert et qu'on voulait quelque chose d'un petit peu plus édulcoré. Voilà.
Alors, on n'est pas une menace individuellement, blog par blog, parce qu'aucun blog n'arrivera à avoir une audience de télévision ou de choses comme ça. Mais c'est pas ça. Si on dit blogosphère, c'est bien parce que les blogs fonctionnent en réseau, fonctionnent en organisme. Et ça peut vraiment changer la donne. Du médiatique. Pas un blog isolé, mais une série de blogs qui sont chacun calibrés pour un certain public et qui collectivement change le discours médiatique.
Non, enfin bref, cette aventure était effectivement assez intéressante, et puis avoir effectivement l'adresse de son site sur CNN America, c'est quelque chose.
Voilà.
Mais j'espère avoir bientôt notre ami Georges sur BAF Radio pour une petite interview, ça peut être assez, ça peut être assez amusant.
Enfin, Georges Bouche.
Voilà, exactement, mais qui d'autre?
Georges Clooney, je sais pas.
Je pense effectivement, quand on voit le muscle internet aux États-Unis qui est quand même de 72% l'internaute, qu'en Suisse on est à 18%, à mon avis on ne va pas cesser de grandir. Et vu, en tout cas en Suisse, la qualité du média qui n'est pas toujours mauvaise, mais qui est souvent peu libre, et puis le fait que effectivement toute l'information publique est en Suisse romande, vous avez 37 quotidiens, une trentaine de quotidiens, et vous avez deux groupes de presse.
Je vais même pas commencer à vous parler de la situation en France.
Non, non, que... mais ça, bon, je veux dire. Donc, le voilà. Fait, à mon avis, sinon à grignoter, il y a quelque chose à casser, là, puisque l'information propriété privée. Enfin, je veux dire, c'est un très long débat. Ouais. J'espère avoir répondu donc sur l'affaire de Scalia. Si vous permettez, je crois que je vais essayer de rattraper quand même mon Roland Richard pour savoir s'il est pas en train de se faire matraquer.
Et puis, allez-y, et bravo pour votre trouvaille, parce que c'est vraiment quelqu'un de très éloquent qui arrive à expliquer avec beaucoup de jugement, surtout pour son âge, tous ces faits.
Et ces petits Français, ils savent causer. Je veux dire, enfin, nous, les Suisses, on est toujours en admiration parce que, en général, les Suisses, on parle comme ça déjà avec l'accent. Et puis, alors quand on trouve quelqu'un qui parle beau, c'est toujours joli. Mais par contre, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on refasse un de ces quatre une émission spéciale blog. Ça m'intéresserait.
Oh, bah oui, enfin, c'est si l'actualité l'exige. Là, voilà. Il se trouve qu'il y avait un événement que vous avez causé qui spécifiquement faisait ressortir l'importance nouvelle que prend l'Internet et la manière dont l'Internet peut insérer une information nouvelle dans le circuit des grands médias.
Oui, effectivement, sans avoir à payer et sans avoir à passer par AFP, ATS et compagnie. C'est ça qui, voilà. À mon avis, est assez nouveau.
Bon, donc tout cas, bravo pour votre émission.
Merci bien. Ils sont pas bien nombreux à pouvoir l'écouter, mais bon, on va essayer de régler ce problème.
En direct, vous êtes saturé, mais en différé, je pense que vous aurez retrouvé votre public.
D'accord. On va se passer un petit disque et puis on va ensuite essayer de rattraper notre ami Roland Richard. Encore toutes mes excuses pour ceux qui essaient de nous contacter et qu'on ne peut pas recevoir. Vous comprenez que l'antenne est encore un peu prise. Pour les autres, les plus patients, j'entends, vous pouvez toujours nous envoyer des emails ou essayer de nous envoyer des messages via Skype, l'interface www.bafouet.com, chat with me. Henri Védas, merci beaucoup et bravo pour le Salon Belge.
Bonsoir Adrien.
Je sais que nous devons faire une émission sur le Salon Belge, un de ces quatre.
Encore une fois,
on m'a promis ça.
Surtout suivre l'actualité au plus près.
Oui, mais c'est l'actualité. Le Salon Belge, c'est le must, le culte de l'actualité, blog française. Bien, merci pour tout Henri. On se passe un disque et on attrape Roland.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Moonshine, teardrop in my eye, country road, take me home to the place.
me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Country road.
On est de retour. On a pu atteindre donc Roland Richard, qui est toujours en course, malheureusement, parce que la Sorbonne est quelque chose qui devient difficile d'accès ces temps-ci. Les impôts sont... c'est à force de tout faire en même temps. Les métros sont fermés et les impôts servent à payer les 3000 flics que Sarko a fait venir. Donc il faut remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Il semblerait que donc la ville soit un petit peu bloquée ce soir, mais on ne désespère pas donc d'avoir d'ici une vingtaine de minutes notre ami Roland Richard pour faire le point de la situation sur la Sorbonne, s'il s'y passe vraiment quelque chose, si nos amis donc de Indie Media ont vraiment fait ce qu'ils promettaient de faire, c'est-à-dire un feu de joie avec les CRS autour, n'est-ce pas, ça peut donner quelque chose d'assez amusant. Je sais pas si j'ai quelqu'un en ligne, je suis un petit peu submergé ce soir. Allô, allô ? Est-ce que j'ai quelqu'un ? Laïr ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui.
Allô ? Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Bien.
D'accord.
On a aussi quelques soucis de notre côté pour vous joindre.
C'est pas encore au point le système, hein, disons. En tout cas ces jours-ci, on s'excuse un petit peu. Je rappelle que ceux qui veulent nous atteindre peuvent le faire donc via email. Vous avez tout à droite du site bafouet.com, via email, via Skype en envoyant un message, et puis il faut être un petit peu patient parce qu'on peut pas répondre tout de suite, et ou via téléphone pour les accros des inventions du 20e siècle au 00 41 43 526 80 99 99 pour les Suisses. Alors, j'ai qui là ? Qui c'est que j'ai ?
D'ailleurs, je suis toujours là.
D'accord. Donc moi j'aurais voulu parler de quelque chose avec quelqu'un du Salon Belge, parce que je sais que vous avez suivi ça d'assez près. C'est la question d'Abdulrahman.
Oui, l'Afghan qui s'est converti au christianisme.
Voilà. Donc on avait fait une petite émission avec Monsieur Andarias de Afghan Times, qui était assez optimiste sur la question. Donc finalement il a été libéré, c'est ça ?
Oui, il a été libéré. On peut penser que c'est sous pression des occidentales, puisque des États-Unis au Vatican, les gens se sont mobilisés. Malheureusement, on l'a souligné sur le Salon Belge, la France a été discrète. Mais néanmoins, a priori, donc les voix ont été entendues en Afghanistan et Abdulrahman a donc été libéré.
Alors pourquoi est-ce que la France, enfin je veux dire la Suisse non plus, on l'a pas entendu du tout. D'ailleurs c'est clair qu'il faudrait peut-être relever un peu la chose. Pourquoi est-ce que la France ne s'est pas manifestée ?
Là, faudrait creuser le sujet jusqu'au bout. Il faudrait faire un peu d'histoire. Non, la France est fâchée avec la religion catholique et même la chrétienté en général, due à son passé de ces deux derniers siècles. Donc elle est rentrée depuis la Révolution française dans une logique laïciste, plus que laïque, qui consiste à éradiquer Dieu et tout ce qui peut faire référence alors les gens catholiques, éradiquer tout ça. Donc de, on en arrive donc à la situation où nos hommes politiques arrivent à parler de sujets religieux, toutes les religions, sauf celle qui s'inscrit dans la logique de notre pays.
Bon, mais je veux dire, la chose est assez simple. Je veux dire, en général, les pays occidentaux se défendent de vraiment des, veulent absolument défendre les droits de l'homme. En tout cas, généralement, quand on va en Chine, avant de signer un contrat pour les TGV, on fait un petit laïus sur les droits de l'homme, histoire de, ma foi, de faire pleurer les journalistes, et puis après, on boucle la chose. Et je veux dire, il me semble pas que l'Afghanistan soit un pays qu'on doive ménager, c'est pas une puissance particulière en l'endroit, ni économique, ni militaire. Ils auraient pu toucher un petit mot.
Oui, justement, parce que le problème, justement, n'est pas géopolitique, ou simplement politique. Le problème, dans ce cas-là, est strictement religieux. Donc la France a du mal à prendre des positions favorables à la religion catholique. On le voit dans la manière dont sont traitées les différentes profanations qu'on a subies en France, que ce soit dernièrement en Bretagne ou plus récemment ou plus anciennement ailleurs dans d'autres pays dans d'autres régions de France. Le gouvernement français, les hommes politiques français ont du mal à défendre la chose catholique en France. Voilà, c'est ancré dans les mentalités. En France, on le perçoit bien. Les gens, les hommes politiques, en aparté, les élus, nous disent oui, il faudrait faire quelque chose. Oui, on est d'accord avec vous, mais dès qu'il faut le faire au grand jour, sur la scène nationale ou internationale, eh bien, il n'y a plus personne.
D'accord. Enfin, le fait est que c'était même pas un catholique, celui-là, c'était un gentil protestant. Alors, c'est aussi une chose qu'on aurait, que les catholiques aient renoncé à l'évangélisation des musulmans. Alors que les Américains envoient énormément de monde ces temps-ci, notamment en Algérie. On a vu qu'il y avait justement le gouvernement algérien qui avait réagi en interdisant les conversions. C'est aussi assez frappant, je trouve, de cette énergie nouvelle en direction de l'Amérique du Sud et des pays musulmans de la part des protestants américains. Et puis les catholiques qui regardent, quoi.
Je pense pas qu'il y ait une volonté des catholiques de ne pas évangéliser. Je pense que c'est plus une volonté des protestants américains en particulier de prospérer au-delà de leurs frontières. Il suffit de regarder quelques sites comme Top Chrétien, etc. Ils jouent un peu sur la guerre des chiffres. Ils sont toujours en train de chercher à accroître leur étendue, mais plus numérique qu'autre chose sur le monde. Alors, font-ils ça en réaction de l'islam dont on vante les chiffres croissants depuis une dizaine d'années, en particulier en Europe? C'est possible, mais les catholiques, eux, ne cherchent pas à faire du chiffre, cherchent à comme disait Benoît XVI dans sa dernière encyclique, la conversion se fait par l'amour, par la proximité, par l'exemple de vie chrétienne, et non pas par un prosélytisme à tout craint, comme on peut le sentir un peu chez les protestants.
D'accord. Enfin, pour revenir un peu à Abdulrahman, est-ce qu'il va survivre? Parce qu'apparemment, il y a pas mal de types dans la rue qui voudraient lui faire la peau.
Oui, il y a des grandes manifestations, surtout dans le nord du pays. Effectivement, et c'est un jugement. Le jugement a été rendu. Alors, il faudrait d'abord revenir sur les données du jugement, parce que il a été gracié, certes, mais il a été gracié pour folie, pour incapacité psychique, pour problème mental, ce qui est quand même grave. Parce que Dieu du monde en a sauvé Dieu du monde aujourd'hui, un musulman pour se convertir au christianisme, il doit être fou. Donc déjà il y a ce premier point. Donc un fou lâché dans un pays comme ça, effectivement, surtout s'il est chrétien, eh bien, il peut se faire lâcher aux quatre coins de rue. Il y a des manifestations un peu partout dans le nord du pays. On sent bien que dans le peuple afghan la colère gronde. Et ceci dit, est-ce qu'il va se faire lâcher là-bas? Je ne sais pas, parce qu'il est question qu'il quitte ce pays. Le Canada s'est réjoui de sa volonté de quitter le pays et semblerait, ça vient de tomber ce soir, qu'il serait prêt à l'accueillir. En tout état de cause, l'Italie, elle, a déjà dit qu'elle était prête à accueillir Abdulrahman chez elle, donc il ne devrait pas rester très longtemps en Afghanistan. Et une bonne escorte jusqu'à l'aéroport, ça va peut-être bien se passer.
D'accord. Ouais, mais je veux dire, bon, c'est assez effrayant. Il y a aussi sa famille à sortir de là. Je veux dire, moi, j'ai encore le souvenir d'un Iranien chrétien là qui a été débouté en Hollande parce que la ministre estimait que bon, les homosexuels risquaient leur peau, mais pas les chrétiens. Alors, c'est vrai, si c'est un musulman converti, c'était le cas. Alors, oui, si on le ramène, il se fait gentiment découper en petits morceaux. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment la sauvagerie de ces types.
Ah oui, tout à fait. Bon, ils le font pour les chrétiens maintenant un peu partout. On l'a vu. On voit cette haine antichrétienne des musulmans se développer dans ces pays-là. Ceci dit, vous parlez de sa famille, c'est surprenant parce que qu'il cherche à rester attaché à sa famille, il ne faut pas oublier que c'est quand même sa femme et sa fille qui l'ont dénoncé.
Ah, c'est sa femme et sa fille.
Ah oui, tout à fait. On n'a pas. Je ne sais plus si j'avais précisé sur le salon beige. Oui, c'est sa femme et sa fille qui ont porté plainte parce que, soi-disant, que Abdul Rahman est forcé à assister à la prière, à lire la Bible, etc. Bon, chose que Abdul Rahman, bien évidemment, nie. Mais il semblerait effectivement que ce soit la famille qui l'ait mis dans la situation à laquelle il est, ce qui est quand même. Ce qui peut faire penser à quelques pages de la Bible, c'est dramatique d'ailleurs.
D'accord. Mon cher Laï, je te remercie. Je crois que j'ai Roland Richard qui cherche à m'atteindre. Oui, on se revoit bientôt, bien. J'espère, pour une petite émission donc, sur le Salon Belge, comme promis. On se passe un disque et puis je rattrape notre ami Roland Richard. À tout à l'heure.
D'accord. Et merci beaucoup d'exister.
Tout bon, merci à toi. Hein. Ciao, ciao.
À très bientôt. Salut.
Oh, give me a home where the buffaloes roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Oh, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day.
Alors voilà, c'était Cotanali Joe. On retrouve Roland Richard en direct de la Sorbonne. Roland, bonsoir.
Bonsoir. Eh bien, donc je me trouve actuellement à la Sorbonne avec mon fidèle compagnon d'armes, Florent. Et donc bon, bah, on est allé à la Sorbonne hein, juste pour voir si c'était les mêmes mouvements que ce qu'on a vu à République. Alors j'ai quand même une nouvelle sur ce qui s'est passé à République. C'est que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur du gouvernement français, s'est donc déplacé en personne face à la République pour voir ce qui se passait. Un gros coup de pub hein, pour après son discours hier par rapport au contrat unique qui serait mieux que le contrat première embauche. Donc en fait là on est en plein dans une logique de présidentielle de la part de Nicolas Sarkozy. Bon alors là je viens juste donc de quitter le début de la Sorbonne. On est sur boulevard Saint-Michel à Paris. Et bien il ne se passe rien heureusement. Hein. Enfin j'ai envie de dire un soir de manifestation ça se termine pas mal. Ou alors nous sommes arrivés après mais c'est bon je doute hein, honnêtement.
Alors...
Je doute que ça se
Un message à nos amis de gauche, on est déçus, franchement, vous ne servez qu'à ça, hein, les types d'Indie Media, foutent le boxon, vous n'êtes même pas fichu de faire ça proprement, hein, c'était annoncé, il n'y a rien du tout, alors franchement, on est frustrés. Hein.
donc voilà, bon, alors c'est quand même réjouissant aussi pour les policiers qui sont présents, ça leur fait une soirée de répit, et puis que vous dire d'autre, alors vous dire également que nous avons rencontré un jeune homme qui faisait la grève de la faim pour la libération de la Sorbonne. Alors apparemment il commence à montrer des signes de fatigue. On ne sait pas si c'est un anti-CPE ou tout simplement quelqu'un qui va reprendre des cours.
Mais est-ce qu'il est à côté de toi? Est-ce qu'il est dans les parages là?
Non, parce que là on est descendu beaucoup plus bas dans le boulevard Saint-Michel là. Bah, de toute façon je pense qu'il n'aurait pas voulu s'exprimer donc.
Attends mais on peut essayer.
Comment?
On peut essayer, tu crois pas?
Honnêtement, je crois pas qu'il y ait des gens qui ont essayé de lui parler, ils n'y arrivaient pas trop, donc à mon avis, il faudrait pas prendre un téléphone et discuter, mais bon.
Mais donc, il est assis devant la Sorbonne depuis combien de temps?
Alors, apparemment, il est assis déjà depuis quelques jours, hein, depuis 3 jours, en fait, 4 jours, et il est, en fait, contre la présence policière devant la Sorbonne.
Ah ouais, donc l'occupation de la Sorbonne, c'est les flics, en fait, c'est pas le...
Ah oui, de toute façon, ça fait un certain temps maintenant qu'il n'y a plus un seul casseur dans la Sorbonne même. La Sorbonne, il faut me cadrer, en fait, que toutes les rues adjacentes de la Sorbonne, en fait, à 50 mètres carrés, il y a des quarts de CRS ou des quarts de gendarmes mobiles. Donc, de toute façon, la Sorbonne est un endroit où on ne peut plus rien faire. C'est complètement sécurisé.
C'est vraiment l'état de siège.
Donc voilà.
D'accord.
Oui, voilà, c'est là. Alors bon, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que là, c'était une soirée très triste, hein, encore une fois, notamment en République, où vraiment on a vu des choses terribles. Hein, on a vu des gens. Je veux dire, ce qui est terrible, c'est de voir cette violence qui est réciproque, c'est-à-dire que les uns alimentent la violence des autres, c'est-à-dire les grévistes, enfin, c'est même plus des grévistes qui sont là, des casseurs alimentent la violence des policiers, qui alimentent la violence des casseurs, et ainsi de suite. Donc ça finit souvent quand même avec des visages ensanglantés ou des membres cassés. Donc c'est ça quand même qui est terrible, de voir quand même qu'une manifestation qui, je veux dire, est somme toute relativement, enfin je veux dire, manifester en France est assez, reste démocratique, mais qui a une racine de violence permanente. Alors la question, c'est de savoir d'où elle vient. Honnêtement, on n'a pas vraiment de réponse. Dans ce que je vous ai enregistré et que j'essaie de vous passer, c'est que il est clair qu'il y a quand même une question de crainte de crainte de l'avenir aujourd'hui, mais honnêtement, je pense que s'il y a une crainte de l'avenir de la part des jeunes, ça ne justifie de toute façon pas le fait qu'il y ait eu des casseurs de cette façon-là depuis maintenant plusieurs manifestations. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était quand même je suis pas sûr que c'était la plus violente de la part des casseurs, parce qu'ils ont été quand même beaucoup plus facilement maîtrisés qu'aux Invalides, étant que la place de la République est beaucoup moins vaste que celle des Invalides. Mais ça a été très violent. Hein. Donc nous, on a assisté en direct à tout ça. Et donc, bah, que vous dire de plus? Vous dire tout simplement que c'est consternant. On espère, on est à quand une manifestation aussi CPE qui se termine bien? En fait, c'est la question qu'on a envie de poser. Hein, et puis c'est tout. À quand une manifestation qui s'achève finalement en dehors d'une grande place ou d'un grand monument pour éviter justement que les casseurs attendent avec les forces de police?
Est-ce que tu penses que les anti-CPE sont capables de nous offrir ça?
Je pense honnêtement que ce serait une question de responsabilité tout simplement de la part des gens qui sont contre le CPE, de bien se dire qu'il faudrait faire une manifestation qui s'achève entre deux ruelles, quoi.
D'accord.
Ce serait peut-être un peu bête, ce serait peut-être un peu moins symbolique, mais il y aura peut-être aussi un peu moins de blessés des deux côtés. Et je pense que ce serait une bonne idée. Je pense qu'il était irresponsable de la part des gens qui ont organisé la manifestation jeudi dernier de l'achever aux Invalides. Les Invalides, c'est immense. Je sais pas si les auditeurs s'en rendent bien compte, mais les Invalides, c'est extrêmement vaste. C'est vraiment une très très grande place, l'une des plus grandes places de Paris. Parce que vous avez des grandes pelouses énormes, et c'est vraiment très très vaste. Ça fait 200 mètres sur 100 mètres, si vous voulez. Peut-être même 250 sur 150. Donc, je veux dire que c'est vraiment gigantesque. Donc, je pense qu'il y a une part, oui, il y a une responsabilité, hein, de la part des syndicats, etc., de faire des manifestations qui se terminent sur des grands espaces, parce que il faut qu'ils comprennent que, ces grands espaces sont source de troubles et de graves violences, de très graves violences.
D'accord.
On a vu aujourd'hui, c'est vraiment terrifiant, hein, je vous assure.
Et donc, est-ce que c'était une plus grande manifestation que le 18, ou au contraire, il y a un peu moins de monde? De ce point de vue-là, un bilan?
C'est très difficile de savoir. Parce qu'en plus, il pleuvait aujourd'hui, alors on a eu l'impression qu'il y avait quand même... Il y avait une forte mobilisation, ça c'est vrai. Enfin, c'est l'impression que ça donnait. D'un autre côté, on n'est pas arrivé au début de la manifestation. Nous, ce qui nous restait, c'était la CGT. On a eu, je dirais, les trois quarts, les deux tiers de la CGT qui manifeste quasiment dernier. Ensuite, il y a eu Force Ouvrière et la CNT. Donc, c'est assez difficile de s'exprimer vraiment sur le sujet. Mais bon.
Est-ce qu'il y en aura d'autres?
Je pense, oui. Je pense que de toute façon, tant que le CPE n'aura pas été retiré, tant que le CPE, ou du moins, tant qu'il n'y aura pas une alternative vraiment, et puis même s'il est retiré, je suis pas sûr que ça cessera vraiment. Donc, bon. C'est peut-être un peu pessimiste de ce que je vous dis ce soir, mais alors quand même une bonne nouvelle, hein, juste une bonne nouvelle pour terminer sur une bonne douche, c'est que l'université de Paris Nanterre a été déclarée comme étant réouverte depuis aujourd'hui, et les cours reprennent lundi prochain.
Eh bien.
Cependant, le président du Nestlé a d'ores et déjà annoncé que c'était une occasion de renouveler la mobilisation contre le CPE. Donc on s'attend d'ores et déjà à de nouveaux blocages. Et le président de l'université a quand même précisé d'avance qu'à la moindre violence, à la moindre altercation entre anti-blocage et anti-CPE, eh bien, il refermait l'université. Donc on peut, en fait, c'est une bonne nouvelle sans l'être, puisqu'on sait quand même que ça risque de redériver relativement rapidement, malheureusement.
Et on sait voilà, qu'il sera là pour nous raconter tout, évidemment.
Oui, dès que mon ordinateur aura accepté de retravailler avec moi. Voilà.
D'accord. Écoute, Roland, merci vraiment pour cette soirée, hein, et puis on t'attend pour les jours suivants. À bientôt.
Écoute,
hein.
Merci à toi, et puis on fait attention, voilà, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir, Adrien.
Au revoir. Voilà, chers auditeurs, ainsi se termine cette émission donc du mardi de BAF Radio. On s'excuse encore pour les difficultés de connexion. Ma foi, tant que les Américains continueront à se connecter sur la vidéo de Scalia, on n'a pas le cœur de leur refuser, c'est vrai. Ce sera toujours un peu difficile. On vous passe un dernier disque et on vous dira bonne nuit tout à l'heure. Voilà, chers auditeurs, ainsi se termine cette émission de BAF Radio. On vous retrouve demain pour une émission relativement libre, il n'y a pas de sujet déterminé, donc toujours de 20h30 à 21h30. Vous pourrez intervenir comme l'accoutumée. On espère que cette fois-ci que le réseau sera plus accessible, on s'excuse encore. Et puis, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous avez envie de proposer, n'est-ce pas, nous sommes tout à fait ouverts à tout ce qui pourrait effectivement être objet à discussion. Sur ce, bonne nuit. Thank you.